Chapitre 15e. Grande dame. 4 ans s'étaient écoulés. 4 ans, c'est long dans la courte vie humaine. Pendant ce temps, chacun avait marché dans sa voie, vers son but. Le royaume du monde et le royaume de Dieu se trouvaient en présence, séparés par des limites clairement définies. D'un côté se trouvait Eudoxia, de l'autre Olympia, l'une impératrice d'Orient, l'autre diaconesse. Dans le clergé, les mêmes contrastes existaient. Le séjour de Constantinople, avec sa cour brillante, avec le luxe et la prodigalité des grands, avec les cabales et les intrigues mises en jeu pour arriver au crédit, au pouvoir, aux emplois, aux distinctions, à la fortune, aux mille objets de la cupidité humaine, avec cet abaissement des caractères qui ne saurait manquer de se faire sentir partout où, en dernier ressort, l'argent à la haute main, où l'argent est le véritable mobile de tous les efforts. Un pareil lieu était très favorable au développement des basses passions, et son influence malsaine engendra une grande contagion morale à laquelle le plus petit nombre pur seul se soustraire. Le patriarche Jean Chrysostome combattait ces influences de toutes ses forces et s'y dérobait sévèrement. Il ne paraissait chez l'empereur et chez l'impératrice que quand une affaire, un devoir personnel l'y obligeait, ou quand il était appelé au palais. Jamais on ne le voyait au festin, jamais chez les grands dignitaires, jamais à ces fêtes et à ces repas joyeux où l'on respirait une atmosphère sybaritique. Il aimait mieux passer pour impoli que de prendre part à une réunion de ce genre. Il vivait dans sa sphère ascétique, éloigné de tout ce qui ressemblait au plaisir mondain. Et cependant, il était de mille manières en rapport avec les hommes par les bienfaits spirituels et corporels qu'il répandait sur eux avec une profusion inépuisable. Une partie du clergé tenait fortement à lui et suivait son exemple. Une autre partie donnait dans la voie contraire et lui était hostile. Parmi ses ennemis se trouvaient aussi beaucoup d'évêques qui vivaient à Constantinople, avec ou sans emploi ecclésiastique, afin de s'occuper personnellement de leurs intérêts particuliers à la cour. Ce que Chrysostome dédaignait le plus, l'éclat du siège patriarchal dans la capitale de l'Empire, était précisément ce qui les alléchait et les éblouissait. Et comme ils avaient ou cherchaient des protecteurs et des amis dans les cercles élevés, beaucoup d'entre eux avaient l'ambition d'arriver au siège patriarchal. Eudoxia n'aimait pas le patriarche. Son orgueil, son esprit de domination, s'était puissamment développé. Et l'humilité, l'abnégation de Chrysostome, lui semblait un reproche vivant et perpétuel. Elle le craignait, non seulement parce qu'il était une puissance fondée sur le profond respect et l'attachement du peuple, mais encore parce qu'il se faisait un devoir, à toute occasion, de dire la vérité aux grands et à l'impératrice elle-même. Aussi lui montrait-elle souvent une grande déférence, comme elle faisait voir souvent aussi les dehors d'une grande piété. Mais capricieuse et volontaire comme elle l'était, sous l'impression momentanée d'une idée, d'une passion, elle passait en un clin d'œil d'une extrémité à l'autre. Et il arrivait souvent qu'elle ne pouvait souffrir que le nom du patriarche fût prononcé devant elle. En ce moment, elle était fortement irritée contre lui. Il n'était pas la seule. Son mécontentement était partagé par toutes les dames élégantes de Constantinople. Quelques-unes de ces dames qu'elle recevait tous les jours dans son cercle intime étaient réunies chez elle, entre autres la belle Thaïs qui se faisait remarquer entre toutes par son élégance et son luxe et qui, pour cette raison, était en faveur auprès de la souveraine. « Si j'étais impératrice, dit-elle, je condamnerais Bouche d'Or, pour pénitence, à garder un silence éternel. » « On ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait, » répondit Eudoxia. Comme c'est indiscret de sa part de s'occuper de la toilette des dames, dit Eugraphia d'un ton dédaigneux, « cela est tout à fait inconvenant pour un patriarche. S'il était réellement aussi sain qu'il en a l'air, il ne se soucierait pas plus de la coupe de nos robes que s'il était aveugle. » C'est une honte pour Sainte Sophie, s'écria la fière Marsa. Qu'on prêche dans ces murs contre le luxe de la toilette des femmes. Dans ce saint édifice, on ne doit parler que de choses élevées, des saints mystères de la religion, du danger des sectes et des hérésies, etc. Alors je l'écoute avec plaisir, le patriarche. Alors il est magnifique d'éloquence, je lui rends toute justice. Mais qu'il s'en tienne aux principes, aux maximes, et qu'il nous laisse vivre à notre guise. Notre vie peut-elle se passer d'éclat et de luxe? « Où en viendrait-on avec ces vues ascétiques ?» s'écria Eudoxia. « Le commerce, l'industrie, l'art, une foule de travailleurs, enfin, seraient condamnés si on les mettait en pratique à une mort inévitable. Nous les encourageons, nous les protégeons. Nous travaillons à leur prospérité. Est-ce là du gaspillage, du désordre? Non, c'est employer sagement sa fortune. Aussi, je vois avec plaisir que vous êtes toutes dans ces mêmes vues. Il y a plusieurs manières de faire le bien, et de le faire sagement, c'est-à-dire de façon à ce qu'il profite au plus grand nombre possible. L'un élève des palais, l'autre bâtit des églises. Celui-ci répand des aumônes, celui-là veille à ce que les marchands écoulent leurs riches étoffes, les joailliers leurs diamants. Pour mon compte, je fais tout cela. Mais vous ne pouvez pas toutes le faire. Aussi vous convient-il de choisir ce qui est le plus à votre portée et ce qui touche de plus près aux intérêts de notre sexe. Si je ne me trompe, dit une voix fraîche et calme, le patriarche a prêché surtout contre l'indécence des modes et contre la vanité qui fait qu'on orne le corps de paillettes brillantes comme on ferait d'une idole. Ah, Gunhild, fit l'impératrice, est-il beau sermon du patriarche?
Oui, répondit la jeune fille, je vais souvent l'entendre parce que vous le désirez. Et ces paroles produisent sur moi un effet tout autre que sur Marsa. Les mystères ne me touchent point, mais quand il entre dans le domaine de la vie pratique, alors je le trouve admirable.
Gunhild a rapporté de son pays natal et conservé d'autres idées que les nôtres, dit Thaïs d'un air de compassion.
Et surtout une autre fois, car elle n'est pas baptisée, ajouta Marsa d'un ton aigre.
Cela est vrai, repartit Gunhild. Mais cela n'empêche pas d'admirer l'homme qui met courageusement le doigt sur les plaies du siècle, lors même qu'il les rencontre chez les grands et les puissants. Il a montré les attaches vives et profondes qui existent entre ces vanités et un monde qui ne recherche que l'or, le plaisir, la jouissance.
C'est en cela qu'il est injuste envers nous, s'écria Marsa. Nous nous occupons de choses très sérieuses.
C'est ce que j'allais dire, fit Eudoxia, dans les yeux de laquelle on voyait briller comme des étincelles de colère. J'ai besoin de repos, de soulagement, après que j'ai donné des soins à 1000 affaires graves, difficiles. Est-ce là rechercher le plaisir?
Madame, répondit Gunhild avec calme,
le patriarche n'a donné que des conseils généraux, sans faire aucune personnalité, et je ne rapporte que ce qu'il a dit.
Il voudrait nous convertir toutes à la vie ascétique, et nous loger dans le désert ou nous mettre en cellule,
dit Thaïs avec animation.
Il commencerait sans doute par vous ce tour de force, répondit Agrafia, qui avait une très mince opinion de l'intelligence de la belle Thaïs.
Avec de semblables sermons, dit Eudoxia, le patriarche ne convertit personne et il se fait le plus grand tort à lui-même en s'aliénant les esprits. Mon Dieu, un homme dans sa position doit chercher à s'attirer les cœurs. Quand même on ne serait pas aussi parfait qu'il pourrait le désirer dans son zèle ardent pour le bien. Au contraire, cette sévérité de fer repousse tout le monde.
Sévérian prêchait et agissait tout autrement, dit Marsa.
Ah, Sévérian ! S'écrièrent toutes les dames en chœur.
Si l'évêque de Gabala avait pu se défaire de son accent syrien, ajouta Thaïs, il serait le plus grand prédicateur des siècles passés et à venir, mais rien n'est parfait sur la terre.
Oui, Sévérian, c'était un autre homme, s'écria Eudoxia. Avec lui, on se comprenait. Il savait prendre conseil des gens. Alors on ne faisait pas continuellement retentir aux oreilles du monde des vérités qui sont peut-être bonnes pour l'individu, mais qui sont inadmissibles dans les situations complexes de la vie des grands.
C'est vrai, dit Gunhild, Chrysostome a un idéal élevé.
Il a des idées exagérées et des exigences excessives, voilà ce qu'il a, s'écria Marsa,
comme il traite le jeune clergé.
Ah, interrompit Eudoxia, sur ce point j'approuve sa conduite. Il donne des instructions sévères, et celui qui les transgresse est puni avec justice. Car les prêtres légers et de mauvaise vie tuent dans la masse du peuple le respect de la religion et la dignité de l'Église, et cela fait un tort énorme. Oui, que le patriarche veille sur le clergé et qu'il lui impose une discipline sévère, c'est son droit, c'est son devoir. Mais pour notre toilette, qu'il ne s'en occupe point.
Tout cela se tient et ne fait qu'un dans son esprit, répondit Marsa. Il est dominateur dans toute la force du mot. S'il ne peut gouverner les provinces, il veut gouverner les âmes, depuis l'empereur jusqu'au moine le plus ignoré dans sa pauvre cellule.
Certes, il est bon de prévenir les désordres dans le clergé, mais s'il s'en présente, que l'on soit indulgent.
Je ne suis nullement de cet avis, dit Eudoxia.
Le prêtre est toujours un homme, dit Eugraphia d'un ton pathétique, comme s'il avait découvert une vérité toute nouvelle.
C'est pour cela même qu'il doit être puni comme un autre homme, répondit Eudoxia.
C'est très sage au patriarche de se charger de punir les coupables quand la justice civile ne les atteint pas. Je regrette vivement que dans votre parenté, Eugraphia, et pour un de vos protégés, Marsa, un pareil cas se soit présenté, mais je ne puis qu'approuver la conduite du patriarche. Un jeune homme aussi bien doué que Genius eût été un ornement pour l'Église, il me semble, dit Eugraphia d'un air sentimental. S'il avait voulu se corriger, oui, répondit l'impératrice, mais il ne l'a point voulu. Il a résisté au patriarche et l'a attaqué avec l'arme de la calomnie. Non, ma bonne Eugraphia, ne parlons pas de votre pauvre neveu. Il est encore de l'école du patriarche Nectarius, qui était plutôt un sénateur romain qu'un prélat chrétien. La généreuse impératrice ne devrait-elle pas trouver en cela même une excuse pour Eugénius ? Une excuse, oui, mais non pas une justification ni une marque de vocation. Le patriarche a fait son devoir envers lui. Mais le patriarche soutient qu'il a aussi des devoirs à remplir envers nous, dit Marsa. Vous avez entendu son serment, Gunilde. Vous pouvez l'attester. Il veut nous tracer des règles comme à son clergé, seulement sur un autre terrain. Il a dit, répond Gunilde, que Dieu l'avait chargé de veiller sur les âmes des hommes comme des femmes, des jeunes comme des vieux, des riches comme des pauvres, des puissants comme des faibles, et que cette charge l'oblige à employer l'avertissement, le blâme, le reproche, l'admonition, à présenter en un mot le miroir à tout vice, à tout désordre, afin que les coupables rentrent en eux-mêmes et se corrigent. Une pareille prétention est exorbitante, dit Marsa. Qu'on prêche contre les vices des pauvres et de la basse classe, rien de mieux. La foule est si nombreuse que personne ne songe à appliquer le blâme à celui-ci plutôt qu'à celui-là. Mais pour les gens du grand monde, c'est tout autre chose. Ils sont, comparativement, en très petit nombre. Chacun les connaît, on sait leurs inclinations, leurs goûts, leurs relations, leurs occupations. Si on prêche contre leurs défauts, la foule ne manque pas de faire des personnalités. C'est un tel qui mérite ce blâme, c'est à une telle que s'adresse tout le sermon. Je suis convaincu que dans toute la ville, ce n'est qu'une voix pour crier « Enfin l'impératrice et les dames de son entourage ont entendu la vérité sur leur gaspillage et la frivolité de leur toilette. À quoi bon ? Nous nous habillons cependant comme il nous convient. » Ce zèle inconsidéré, qui se mêle de choses qui sont en dehors de la sphère du prédicateur, ne doit pas être toléré, dit Eudoxia, irritée. Le patriarche se permet de me faire quelquefois des remontrances vraiment blessantes. Ô vous, notre noble impératrice, s'écria Thaïs avec transport, vengez-vous, vengez-nous, et infligez-lui une verte correction. Ma pauvre Thaïs, dit l'impératrice d'un ton compatissant, vous devriez savoir qu'on ne peut traiter un patriarche comme un chambellan. D'ailleurs, cela ne profiterait guère. Il invoquerait son devoir, sa conscience, et tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, et continuerait à prêcher de la même façon. Vous voulez donc souffrir ces impertinences ? Demanda Thaïs d'un air étonné. Il faut prendre la chose autrement, dit Eudoxia, pour couper court. Qu'est-il de nouveau dans la ville ? Mais avant que l'entretien recommençât sur ce nouveau thème, on annonça l'approche de l'empereur. Eudoxia congédia les dames et alla au-devant de son époux. Il entra, à demi mécontent, à demi embarrassé. Et Eudoxia reconnut aussitôt que l'objet qui le chagrinait la concernait elle-même. Serait-ce le sermon du patriarche qui l'attristerait ? Un de ses protégés aurait-il fait quelque folie ? Peut-être même commis quelque grave délit ? « Vous paraissez triste, cher ami, lui dit-elle tendrement. Combien je vous remercie de venir me faire partager votre chagrin. » C'est vous-même qui en êtes l'objet, Eudoxia, répondit l'empereur d'un air hésitant. Moi ? Fit-elle d'un air joyeux. Je suis contente en ce cas. Je suis bien sûr de le dissiper promptement. Car quoi que ce soit, je ferai le contraire de ce qui vous attriste. Non, chérie, ce n'est pas vous qui m'attristez, dit Arcadius. Vous êtes la lumière de mes yeux et la joie de mon cœur. Mais j'ai reçu une lettre de mon frère. Il est à Rome. Il y a fait une entrée triomphante avec un luxe extraordinaire, pour calmer les Romains mécontents que la cour ait changé de résidence, et se soit transporté de Milan à Ravenne. Notre sœur Placidia et notre cousin Eucarius précédaient le char triomphal. Mais pourquoi m'affligerais-je de la représentation que l'empereur d'Occident se donne à Rome ? Fit Eudoxia. Je la lui accorde aussi volontiers que je vous souhaite à vous, mon empereur, de vrais et véritables triomphes. L'empereur d'Occident n'a pas vos sentiments généreux. Vous lui accordez les honneurs qui lui reviennent. Il vous refuse ceux qui vous sont dus. Comment cela ? Fit Eudoxia, dont les traits fiers brillèrent d'une légère rougeur. Vous savez que jusqu'à présent,
Ce n'était pas l'usage d'envoyer dans les provinces les statues des impératrices aussi solennellement que celles des empereurs. Beaucoup de villes ont élevé des statues à une impératrice, comme Antioche l'a fait pour Flacilla, ma mère. Mais l'envoi des statues comme présent impérial, leur réception solennelle par les autorités et les fêtes publiques qui ont été données à l'occasion de leur érection, tout cela était jusqu'à présent le privilège de l'empereur. Pour vous, j'ai fait une exception, parce que votre esprit, vos sentiments méritent les honneurs impériaux, et parce que j'étais heureux de partager avec vous tout ce qui vous relève aux yeux du peuple, comme vous partagez avec moi tous les soins du gouvernement. C'est ce procédé que blâme mon frère. Il trouve qu'il n'est pas sage de permettre à une femme de franchir la distance qui se trouve entre la majesté du César Auguste et tout le reste du genre humain. Les peuples pourraient en concevoir de la méfiance et craindre que le gouvernail de l'État ne tombât en des mains féminines, ce qui serait une humiliation insupportable pour l'Empire et ferait perdre tout respect pour l'Empereur et pour le trône. Des femmes ambitieuses pourraient abuser de ce privilège d'une façon déplorable. On ne pourrait refuser à une impératrice ce qu'on aurait accordé à une autre. Les impératrices d'Occident, aussi bien que celles d'Orient, se fondraient toutes sur l'exemple d'Eudoxia pour revendiquer comme un droit ce qui n'a été qu'une faveur d'un trop tendre époux. Vous comprenez combien cette critique me touche. Laissez-moi vous dire, cher époux, qu'en cela vous avez tort, répondit Eudoxia en riant. Quiconque vous blesse me blesse au cœur, dit Arcadius. Cela ne doit pas être, fit-elle vivement. Il faut voir en tout de qui vient l'offense. Et ici, il est tout probable qu'Honorius a écrit ce que Stilicon a dicté. Stilicon ou Serena. Pensez-vous ? Demanda Arcadius, calmé et tout prêt à partager la manière de voir de Doxia. J'en suis sûr, dit-elle avec assurance. Que Stilicon gouverne l'empereur et l'empire d'Occident, c'est un fait, hélas, que tout le monde sait. Tout le monde sait encore que Serena, comme nièce du grand Théodose, a un grand orgueil de famille et ne peut se consoler de l'humiliation de n'être pas impératrice et de n'être que la femme du vandale Stilicon, et que son esprit dominateur exerce une grande influence sur Stilicon. Serena ne peut supporter que votre amour, mon Arcadius, m'élève à la hauteur où aucune impératrice n'a encore été portée. Ne vous affligez donc pas. Honorius n'est qu'un instrument, un nom. Il est trop borné pour prévoir ainsi ce qui pourrait arriver de fâcheux dans l'avenir. Non. Serena a poussé Stilicon. Stilicon déteste tous ceux qui ne se soumettent pas à son autorité suprême. Il vous déteste donc, vous d'abord, et moi ensuite, comme inséparable de mon empereur. Il déteste tout ce que nous pouvons faire. C'est lui qui a dicté cette lettre à Honorius. De la part de votre frère, le blâme eût pu vous contrarier, mais jamais venant de ce vandale. Oubliez cette lettre de Rome et venez avec moi. La soirée est délicieuse. Elle nous invite à faire une promenade en mer. Les enfants nous accompagneront. Cela vous rendra toute votre gaieté, n'est-ce pas ? Elle prit son bras et l'emmena.